On continue la même étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines antérieures. Nous sommes, frères et sœurs, préparés pour la guerre. Je l'ai dit l'autre fois, on n'est pas encore en vacances, même si on en prend des vacances, puis même si on se repose d'un travail physique. Spirituellement, on n'est pas en vacances. On ne peut pas dire à Dieu, « Là, Seigneur, j'en ai assez fait, je me retire. » Même un pasteur qui prend sa retraite, c'est rare que tu vois ça. La majorité du temps, même s'ils disent qu'ils prennent leur retraite, ils s'en vont prêcher ici, ils s'en vont prêcher là, ils s'en vont visiter une autre église, puis là, ils témoignent pareil du nom du Seigneur, puis ils travaillent encore à encourager les frères et sœurs. Il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. Tu ne peux pas te retirer du Seigneur. Si tu te retires du Seigneur, tu es en train d'être rétrograde. Tu es en train de l'apostasier, le Seigneur. Tu es en train de le renier si tu l'abandonnes puis tu te retires. On va toujours être pour lui, puis on va toujours vouloir travailler avec lui. Il y a un plaisir, puis il y a une joie de travailler avec le Seigneur. Puis vu qu'on est encore en train de travailler pour le Seigneur ici à Saint-Rémy, nous travaillons de semaine en semaine. Peut-être qu'on ne le remarque pas qu'on travaille. Oui, peut-être qu'on ne le remarque pas, mais après qu'on va avoir compris le message de ce matin, nous sommes en train de travailler parce qu'on est assis ici là, le matin. On est en train de combattre pour la cause du Seigneur. La dernière prêche, j'ai dit, les prêches antérieures, j'ai dit que nous devons combattre contre. Faut combattre pour persévérer jusqu'à la fin dans la foi. J'ai vu aussi qu'il faut combattre contre le péché. J'ai parlé aussi qu'il faut combattre pour la vérité. Puis l'Église, là, c'est la colonne. C'est quoi l'Église, là? C'est pas la bâtisse. C'est le rassemblement. Le fait qu'il y ait 5, 6, 10, 20, 50, 100, 500 personnes réunies ensemble et qui proclament le nom du Seigneur, c'est l'Église. Parce que le mot Église veut dire l'assemblée choisie. C'est une assemblée qui est sortie du monde pour entrer dans son assemblée, dans l'assemblée des frères et sœurs. Quand on est réunis, nous sommes l'Église, puis nous sommes l'appui de la vérité. Nous sommes la colonne vertébrale de la parole de Dieu. C'est ça que j'ai parlé la dernière prêche. Aujourd'hui, on continue la même idée, mais dans une autre dimension pour nous faire comprendre qu'on a à combattre pour un autre combat qu'on voit aujourd'hui, combattre pour les autres à atteindre la vie éternelle. Moi, je suis heureux d'être sauvé. Je ne sais pas si je pose la question. Êtes-vous heureux d'être sauvé? Êtes-vous heureux de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de ses enfants, que toutes les promesses de la Bible sont pour vous, le ciel, la vie éternelle, puis tout le kit? C'est le fun. Mais je pense pas qu'il nous l'a donné, cela, juste pour dire, c'est correct, je suis content de te l'avoir donné, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Laisse-toi aller, autrement dit, puis non, je pense que tout ce qu'on profite, il y a une part de responsabilité là-dedans. C'est comme quand il y a eu dans l'Ancien Testament le peuple qui était assiégé par une armée. Puis là, à un moment donné, l'Éternel leur a accordé une délivrance parce que tout le peuple qui était en guerre contre Israël, il y a eu comme un œuvre de Dieu, puis que là, l'armée s'est dissimée. L'armée n'était plus là, mais le peuple faisait longtemps qu'il était enfermé dans la muraille de la ville. Puis il y en a quatre des lépreux qui étaient dehors, qui ont dit, ben nous autres, on tant qu'à mourir de faim, on va se livrer au peuple étranger. Quand ils sont arrivés là, ils ont aperçu qu'ils étaient libres, parce qu'ils n'étaient plus personne. Mais le fait de commencer à prendre le stock, puis on dit, hey, c'est bien beau qu'on a cette bénédiction-là, là, mais c'était pas un pour nous autres, il faut faire partager les autres aussi de ce heureux message-là qu'on a, là, on est porteur d'un heureux message. L'armée est partie, nous sommes libres. Dieu nous a donné la victoire. Là, ils sont allés puis ils ont fait par profiter le reste du monde de leur bénédiction. Puis je pense que c'est un peu la même chose, nous aussi. On est comme les lépreux qui sont au courant parce qu'on était à cause de nos péchés. On était comme toute salie. Notre âme était indigne d'entrer dans la vie éternelle. Puis le Seigneur nous a accordé une bonne nouvelle qu'on pouvait être pardonné de nos péchés. Puis là, on profite de tout ce que le ciel a à nous donner. Mais est-ce que c'est juste pour se paître soi-même qu'on est héritier de toutes ces bénédictions-là? Est-ce que c'est juste pour nous ou le Seigneur veut qu'on commence à travailler, qu'on se responsabilise avec ce qu'on a reçu, puis qu'on essaye toujours de faire profiter les autres? Quand tu vas prendre conscience de ça, que tu es chrétien, puis tu as reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses, il n'y a rien dans ce monde qui est plus grand que d'être sauvé, de faire partie de la famille de Dieu, que les temples. Le sceau de Dieu est étampé dans notre front, on est des serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné comme signe qu'on lui appartient, puis maintenant, on travaille pour lui. Si on se responsabilise un peu, nous devons combattre pour les autres. Quand que je dis combattre pour les autres, à atteindre la vie éternelle, c'est bien sûr, ça sous-entend deux idées. Premièrement, là, c'est un grand travail. Il ne faut pas compter une joke, là. Être chrétien, c'est un mode de vie, mais être chrétien, c'est aussi un travail. C'est un titre, être chrétien, mais ça sous-entend que tu as un job à plein temps qui est commencé. Puis quelqu'un qui est encore dans la pensée enfant, lui, il ne le voit pas, il est enfant. Il y a un bébé, là, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a faim, puis il broye, puis on lui met la bouteille dans la bouche. Il ne comprend pas. Il ne peut pas se responsabiliser, mais à la minute qu'on grandit, on comprend qu'il faut travailler, il faut ramasser de l'argent pour payer, pour faire vivre notre famille. On commence à se responsabiliser, puis vouloir penser à d'autres. Penser à notre femme ou à notre conjoint, penser à nos enfants. Là, notre vie est en fonction des autres. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Quand on commence notre vie, puis notre vie chrétienne, on n'est pas trop au courant du combat, mais plus qu'on maturit un petit peu, on s'aperçoit, hey, il y a plein de monde autour qui doivent profiter de cela, puis là, on veut parler du Seigneur à tout le monde, puis là, on veut faire des choses dans l'Église, on veut s'impliquer dans l'Église. C'est ça qui est de travailler pour l'œuvre de Dieu. Tu es en train de combattre la minute que tu as commencé à ouvrir la bouche pour le Seigneur. T'es en train de combattre, t'es un combattant, tu fais partie de ces soldats, puis t'es en train de travailler à sauver des gens. Dieu veut nous donner une vision de combattant, qu'on est des soldats, puis il veut nous donner une vision de combattant, de soldat, mais une vision de travailleur. Ceux qui n'aiment pas travailler, c'est sûr qu'ils vont « Oh non, pas encore de l'ouvrage, moi j'aimerais rester à rien faire. Oh. » Puis comme faire comme Gaston Lagaffe, quand il y a une petite pulsation de travail, il s'assit dans un coin et attend que la crise passe. Mais nous autres, c'est pas ça. On doit avoir à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. On doit s'exciter plus, Seigneur, ouvre des portes, mets-moi des choses sur mon chemin, puis donne-moi le désir de faire. Tout ce que Dieu a préparé d'avance, on rentre dans la vision, dans son plan. Paul l'avait compris dans Colossiens 1:28. Paul il dit, c'est lui que nous annonçons. Dans Colossiens 1:28, il parle de Jésus, c'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Être chrétien, t'es enrôlé, t'es un combattant, puis c'est à quoi que nous devons travailler. Exhorter tout homme, enseigner, instruire tout homme afin de les présenter à Dieu en homme parfait. Mais on doit apprendre qu'il y a un combat. Puis Paul l'avait compris, puis il s'est engagé pour son combat. Puis il combattait avec la force que Dieu lui a donnée. Moi, présentement, je travaille avec la force que Dieu m'a donnée. Attendez-vous pas que je vous prêche comme Billy Graham ou prêcher comme Bunky, là, un autre grand évangéliste qui a des millions de personnes qui se mettent devant lui pour entendre le message de l'Évangile. C'est encore plus grand que le ministère de Billy Graham. Des millions de personnes devant lui en Afrique, partout dans le monde. C'est quelque chose, mais il travaille selon la force que Dieu lui a donnée. Moi, ici, à Saint-Rémy, je travaille avec la force que Dieu m'a donnée Puis chacun de vous, vous devez apprendre à travailler avec la force que Dieu vous a donnée. Va avec la force que tu as. Il y a dans Ecclésiaste, elle dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts qu'on voit. Quand on quitte ce monde et qu'on est enterré, il n'y a plus d'œuvre à faire. C'est pendant qu'on est vivant, pendant qu'il fait jour, que nous devons être en train de travailler. Puis Jésus dit, veillez afin qu'il vous trouve en train de travailler lorsqu'il reviendra. Pour pas qu'il nous trouve. Le contraire de travailler, c'est endormi. Combattre pour les autres, les aider à connaître Jésus, puis les aider à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Ça sous-entend les deux grandes lignes, l'évangélisation puis l'édification. C'est ça la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples avant de quitter. Mais il le dit à tous ceux qui étaient là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, puis enseignez-leur à observer. Faut que tu ailles recruter, puis faut que tu enseignes pour qu'ils observent. Faut que tu entoures, faut que tu expliques. Faut que tu prennes soin. C'est ça qui est le point, le but de l'Église. On est ici comme étant un centre de faire des efforts pour aller en chercher, mais de faire des efforts pour les encourager, les édifier dans leur foi, les faire grandir, puis que tous les disciples qui sont assis ici puissent être présentés à Dieu comme des personnes rendues parfaites en Christ. Dieu a besoin de ses soldats pour travailler au salut des gens perdus. Le monde ne viendra pas seul à l'Église. C'est bien rare que quelqu'un, il marchait, il s'en allait au magasin, il s'est enfargé sur le trottoir directement en face de la porte, puis là, en tombant, il est tombé dans de la porte qui était ouverte, puis ça donne à débouler jusqu'à s'assis sur une chaise, puis par hasard, il se retrouve assis là pour écouter le message. Ça peut arriver que quelqu'un qui a déboulé puis qui est rentré dans l'église puis qui est assis à la chaise puis il a écouté toute la prêche puis là il a accepté. Ça peut arriver, là. Je dis pas que Dieu est pas tout puissant, mais c'est rare. C'est pas la méthode première que Dieu a utilisée pour qu'on évangélise. Dans Romains 10, le verset 14, ça nous dit, comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment y en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Comment les gens du monde vont pouvoir croire en un Dieu qu'ils n'ont jamais entendu parler? Comme je vous dis, à moins qu'un gros miracle, là, puis le gars, il déboule jusque dans l'église, puis là, il l'entende comme ça, là. Normalement, c'est l'église qui est au-devant des gens. Quelle méthode utiliser? Toutes les méthodes sont bonnes. Le quoi? N'importe quoi dans la vie se fait pas tout seul. Même quand un enfant vient au monde, c'est pas fait tout seul, cet enfant-là. Ça a pris l'intervention d'un homme et d'une main et un pain, puis ça a pris l'intervention de Dieu, l'intervention des médecins, puis là, finalement, il est là. Puis même encore, il y a encore de l'ouvrage à faire. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. Vous êtes des combattants pour la vérité. On doit apprendre à combattre, à réaliser notre rôle de combattant, puis à rentrer dans ces œuvres-là. Nous devons nous responsabiliser pour aller porter la bonne nouvelle, d'essayer d'une manière ou d'une autre de la semer. Parce que ces gens-là, ils ne pourront pas croire sans l'avoir entendu parler, puis c'est notre responsabilité d'y aller. Paul, lui, il se faisait un honneur de s'impliquer afin de répandre l'Évangile. Pour lui, là, c'était... Moi, là, j'aimerais ça avoir le un quart de son zèle, le un quart de sa conviction, le un quart de sa force, de son énergie, de sa vision. Puis de son, tu sais, il est un exemple. Je te dis pas qu'il était parfait, il n'y a pas personne de parfait, on a toutes nos faiblesses, Paul y compris. Mais quand même, les bons points qui vivaient, là, c'est important. Dans Romains 15, 20, il nous dit, « Je me suis fait un honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé. » Il n'a même pas entendu rien sur Dieu, puis lui, c'est un honneur pour lui qu'un j'y va, puis je vais répandre la parole dans ce territoire-là. Ce zèle-là, là, ça m'excite quand je l'entends, puis je le vois. C'est extraordinaire. Ben, il travaillait avec la force que Dieu lui a donnée. Puis nous, on travaille avec la force que Dieu nous a donnée. Le petit peu qu'on a, mais il faut être capable de le mettre au service de Dieu. Comment voyons-nous ou que ressentons-nous à propos de la vie chrétienne? Je parle en tant que chrétien. Quand j'étais assis là, j'ai pris la version du Semeur. Dans 2 Timothée 1, 8. Paul est en train, comme je l'ai dit plusieurs fois, Timothée, il avait de la misère, puis il a besoin d'être encouragé par Paul. Puis dans ce passage-là, je pense que nous aussi, on peut être à la place de Timothée, puis d'écouter ces paroles-là comme si Paul est en train de nous parler à nous-mêmes. « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas plus honte de moi qui suis en prison pour sa cause. » Là, je vous lis la version du Semeur, mais semblable, mais dans des mots que je trouve encore mieux. « Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. Hey, » c'est extraordinaire. C'est comme tous les versets, ils sont comme des résumés de ce sujet-là que je vous amène. Il y a deux choses là-dedans que je remarque qu'on peut se décourager et qu'on peut relâcher. Premièrement, on peut se décourager et on devient honteux de parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Puis on peut venir à être découragé et à être honteux de ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre dans cette idée-là? Timothée, là, c'est un co-ouvrier avec l'apôtre Paul. Il était dans presque toutes les œuvres que Paul a faites, dans le sens qu'il était à telle église, qu'il était à telle autre place. Timothée le suivait partout. C'était son compagnon de combat, son compagnon de service. Il était toujours avec Paul. Là, à un moment donné, il était laissé dans une ville pour régler des choses, puis Paul lui était en prison. Puis là, il avait besoin de se faire comme rebooster dans sa foi parce qu'il était en train d'être découragé. Il se passait quelque chose dans sa vie, puis Paul l'exhorte à ranimer sa flamme. Puis là, il est en train de dire, « Aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, puis aie pas honte non plus de moi qui souffre, qui suis en prison. » Parce que ça le dit, « Je suis ici en prison. » Dans l'autre verset, « Je suis prisonnier. » Mais quand on le lit, on pense toujours, « Je suis prisonnier de Christ. » Non, Paul, il était réellement en prison. Paul, apparemment, il aurait fait comme 8 ans de sa vie en prison. Lui qui était le plus zélé pour l'œuvre de Dieu s'est retrouvé le plus longtemps enfermé dans la prison. Puis ça, c'est l'ennemi, ça, qui a mis des bâtons dans les roues. Puis là, ça devenait comme gênant d'aller voir Paul, il est en prison. Tout le monde l'a mis en prison. Pourquoi pensez-vous que l'on met en prison? C'est pas parce que c'est un voleur. Parce qu'il parlait de Dieu. Parce que Paul n'était pas gêné, il parlait de Dieu. Il dit, c'était quoi que je travaille d'exhorter, d'instruire tout homme pour les amener parfaits en Christ? Il était en prison, puis il chantait. Il venait de manger une volée, là, il avait le dos en sang, il venait de se faire battre de coups de bâton, puis de fouette, là. Il était ensanglanté, puis il vient d'être jeté dans sa cellule, puis il chantait, puis il louait les louanges du Seigneur, qu'il y a eu un tremblement de terre, puis le Dieu il a fait que les chaînes de tous les prisonniers se sont rompues. Mais quand tu es à côté d'un gars comme Paul, là, ça devient dérangeant. On dirait qu'il n'y a pas d'autre sujet de conversation que de parler de Dieu. Là, on s'est mal le monde mal à l'aise parce qu'il se promène sa rue puis il accroche le monde puis tu connais-tu le Seigneur Jésus? Puis s'il y aurait des pamphlets, parce que l'imprimerie n'existait pas dans ce temps-là, mais s'il y aurait eu un pamphlet, il en aurait donné des pamphlets. Il dit dans toute l'Asie, là, hein, ça lui a pris 1 an et demi à évangéliser toute l'Asie. C'est ce que ça dit dans les Actes. Nous autres, là, ça fait combien d'années qu'on est ici à Saint-Rémy, puis on n'a même pas passé à travers de toutes les portes de la ville de Saint-Rémy. On l'a fait par de payer une annonce dans le journal ou payer un pamphlet qui soit distribué par un facteur. Faire un sondage. Mais. Puis on a-tu fait vraiment de l'évangélisation? Étais-tu là vraiment? Ding-dong! Connaissez-vous Jésus-Christ? Mais Paul, c'est un gars de même. Puis tant que t'es dérangeant comme ça, il finit en prison. Mais Timothée t'a rendu gêné d'aller visiter Paul en prison. Ça y faisait de quoi? Il dit, « N'aie donc point honte de moi qui suis en prison pour sa cause. » Ça veut dire qu'il était gêné d'aller voir Paul en prison parce que Paul est en prison à cause qu'il parlait de Jésus. Nous, là, on risque pas la prison d'aller parler de la parole. On n'a pas à être gêné ou d'avoir honte de parler du Seigneur parce que les gens y croiront pas si on l'annonce pas. Ça prend des gens qui veulent combattre pour l'Évangile. Des soldats de Jésus-Christ qui vont y aller, d'une manière ou d'une autre, qu'on travaille pour recruter ces gens-là et les amener à accepter le Seigneur dans leur vie. Puis qu'ils suivent Jésus, qu'ils se ramassent ici pour venir recevoir les enseignements. Parce qu'il y a des disciples, des enfants de Dieu qui travaillent à édifier, à encourager, puis à enseigner. Puis tout le travail se fait, mais c'est un travail de toute une équipe qui est l'Église à Saint-Rémy pour ce territoire-là. Mais chaque Église est comme une ambassade dans la ville où ce qu'elle est établie. C'est Jésus qui nous a établis. Et je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que là où vous êtes, là, vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Nous sommes ici par le plan de Dieu, puis demain nous saurons ce que ça sera, puis on parle le plan de Dieu, et nous ferons l'œuvre de Dieu. Mais on n'est pas en vacances. Comment pouvons-nous combattre pour soutenir les sauvés? Parce que là, je viens de parler comment il faut y aller pour aller évangéliser, mais quand tu es assis ici, là, parce que je dois travailler... C'était le but, c'était à combattre pour les autres, les aider à connaître Jésus et à persévérer jusqu'à la fin. Là, on a parlé que c'est notre responsabilité d'aller chercher. Mais comment je peux combattre pour soutenir les sauvés? Parce que c'est mon combat. Moi, Daniel Poulain, j'ai à travailler, j'ai à combattre pour que vous soyez, j'espère que vous l'êtes, gardé dans la parole de Dieu, béni spirituellement, encouragé par les messages, que vous soyez instruit, puis que ça puisse changer, assez là, puissant par l'onction de Dieu, puis que ça puisse changer, pas juste ma vie, mais ça puisse changer vos vies. Il faut que l'onction du Seigneur soit là, pour que vos vies, nos vies, tous ensemble, nous grandissions pour devenir comme on se présente à Dieu, qu'on est devenu parfait en Jésus. On a de l'ouvrage? La minute qu'un individu vient à Christ, il devient une proie de l'ennemi. Puis là, il y a l'habitude, quand il arrive au Seigneur, il n'arrive pas avec 30 ans de fermeté de vie chrétienne dans le corps. Il commence à zéro, il commence avec la première journée. C'est comme un gars qui arrête de boire, sa première journée de sobriété. Après ça, il comptera la deuxième journée. Puis il dit, à chaque jour suffit sa peine, là, tu casses pas la tête, puis l'ouvrage ou le temps que tu auras à dire, faut que je sois chrétien pour le reste de ma vie. Non, ça ne va pas être pensé de même. Tu ne sais pas combien est long qu'elle va être ta vie. Elle peut finir 10 minutes après que tu aies accepté. Donc, il faut que tu prennes ça au jour le jour, puis tu fais ta première journée, tu feras ta deuxième journée, puis tu te dis encore, je suis aujourd'hui, là, et je vais vivre pour le Seigneur. Chaque nouveau-né doit penser de même. Comme je continue à le penser comme ça, je suis aujourd'hui, je suis encore enfant de Dieu. Gloire à Dieu, ça fait 30 ans que je le suis, mais quand même, il faut que tu prennes ça au jour le jour. Puis il subit des tentations, des épreuves, les doutes qui vont l'essayer pour le faire abandonner la course. C'est ça la mission de l'ennemi. L'ennemi est en guerre, lui, avec. Il a déclaré la guerre à Dieu, puis il essaie de détruire tout ce que Dieu essaie de construire. Mais Dieu, il est plus rusé que lui. Dieu est beaucoup plus intelligent, puis il a une sagesse beaucoup plus infiniment grande que le diable. Le diable ne voit pas l'avenir comme Dieu voit l'avenir. La preuve, si le diable aurait su, il n'aurait pas crucifié Jésus, il l'aurait laissé mourir de vieillesse. Puis personne n'aurait pu être sauvé. Mais vu qu'il ne connaît pas l'avenir, il a assassiné Jésus, puis par son assassinat, ça a permis que Jésus paye sur la croix. Fait que le diable ne voit pas tout, heureusement, Dieu voit tout. Puis Dieu est capable de nous donner tout ce qu'on a besoin dans chaque moment, dans chaque situation, pour nous aider à persévérer. Mais les frères et sœurs, les nouveaux qui arrivent, eux aussi, c'est la même chose. Ils viennent ici, là, puis ils viennent dans le but de recevoir quelque chose qui va les aider à rester fermes. Pourquoi pensez-vous que les alcooliques anonymes vont dans un meeting? Ils veulent entendre des affaires qui vont lui donner un encouragement de continuer. S'ils seraient tous en train de s'encourager à boire, je pense qu'il n'y a aucun alcoolique qui finira de sortir de l'alcoolisme en étant dans leur meeting. Il faut que les gens qui sont là, avec qui tu côtoies, que ce soit des gens qui ont expérimenté la vie chrétienne, qui ont expérimenté la vie chrétienne, mais la relation avec le Seigneur, puis la connaissance de la parole de Dieu, pour que tous ensemble, on s'en aille, pas dans le péché, que tout ensemble, on s'en aille dans l'obéissance de la parole, puis qu'on persévère dans la foi jusqu'à la fin. Paul y avait dit, jusqu'à ce qu'ils s'affermissent, les disciples là, qui viennent, ils ont toutes sortes de doutes, de combats, des épreuves, des tentations, tout ça, mais ils viennent ici à l'Église dans le but de s'affermir, puis ils commencent à combattre eux autres mêmes pour eux-mêmes. Au début, là, un bébé ne peut pas combattre pour lui-même. Ses parents sont là, veillés sur l'enfant. Puis c'est notre tâche à nous aussi de veiller les uns sur les autres. Puis à un moment donné, chacun va grandir, puis chacun va réaliser, puis chacun va être capable de dire non au diable. Moi, je ne peux pas dire non tout le temps à votre place. Je ne suis pas toujours là, mais chacun apprend à grandir et à combattre. Mais tout le monde doit venir ici dans le but de trouver la force, les instructions, les outils, les moyens, la puissance de Dieu, des touches du Saint-Esprit, des prières pour pouvoir sortir, rencontrer, bénir, puis ont la force de persévérer puis de se rendre jusqu'à la prochaine réunion. Paul, là, il était comme ça. Puis ça, il faisait de quoi quand il voyait les brebis qui étaient autour de lui? Dans Galates 4:19, ça nous dit « Mes enfants! » Lui, là, il avait tellement à cœur les gens qu'il les appelait comme ses enfants. C'est lui qui les a engendrés, qui les a amenés au Seigneur. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul, là, il ne souffrait pas juste d'avoir pris du temps et d'aller évangéliser et les amener à l'Église. Quand il voyait les brebis qui étaient là, puis que les brebis, il y avait de la misère, puis il y avait le goût de tout lâcher, ça le faisait souffrir encore des douleurs, de souffrir à nouveau les douleurs, ça dit dans le texte. Ça veut dire qu'il était toujours en peine ou en souffrance, en pleurs, en larmes, en prière, pour combattre pour les frères et sœurs qui ont de la misère, puis qui traînent de la patte. Ça lui faisait de quoi? Jusqu'à temps, il était dans cet état-là, là, de vouloir en prendre soin. Jusqu'à temps que Christ soit formé en eux. Quand une personne, Christ est formé en elle, là, il est affermi. Il ne branle pas à tout vent de doctrine, il ne branle pas dans le manche. C'est des personnes avec une colonne vertébrale fortifiée par l'Esprit Saint, puis qui sont capables de parler droitement, puis avec assurance, puis ils peuvent redonner eux autres même des paroles qui vont stimuler le reste de la troupe. Mais on a besoin de s'occuper des petites brebis qui ont de la misère. C'est notre combat. Mais des fois, ça peut arriver que même que quelqu'un qui marche depuis longtemps dans le Seigneur, ça peut arriver qu'on ait besoin d'encouragement. Il n'y a pas de surhomme dans l'Église du Seigneur. Si quelqu'un se pense être debout, qu'il prenne garde de tomber. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas de surhomme ni surfemme. Nous sommes que des gens dépendants de la présence de Dieu et appuyés sur des versets, sur des promesses, puis on s'accroche. On ne sera jamais au-dessus de tout. Puis si la journée qu'on va se penser au-dessus de tout, on est déjà tombé. Fait qu'il y a certains moments qu'on a besoin d'être soutenu dans nos propres combats. Ceux qui sont en avant, comme moi, je prêche la parole, ça a l'air tout est beau dans sa vie, ce gars-là. Tu le vois le dimanche, il pète le feu. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il vit dans sa semaine, c'est toujours du pétage de feu. Paul lui-même, Paul, le grand Paul, Paul, ça c'est mon exemple, Éphésiens 6, 19, il dit « Priez pour moi ». Paul, là, il demandait des prières. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné ». Pourtant, on le regarde aller, là, c'est comme s'il l'avait déjà, le zèle de prêcher. Non, il dit, « Priez afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère d'Évangile. » Pourtant, il a de l'air à l'avoir partout où il va, il parle sans arrêt. Il ne pensait pas d'avoir la force de tout faire, Paul. Il savait qu'il marchait à ses prières des frères et sœurs. L'Église combattait avec Paul pour le soutenir, l'encourager, prier pour lui. Puis là, ça y remplissait de feu. Puis là, il allait porter la parole avec hardiment puis librement. Tu peux pas prêcher librement avec une pleine liberté, là, librement, là, sans obstacle, sans blocage, sans arrêt, sans opposition. Tu peux pas prêcher sans être soutenu par la prière. Puis prêcher hardiment, c'est avec hardiesse, c'est avec ferveur, c'est avec zèle, c'est avec empressement, c'est avec... Il est décidé, conviction, puis mazan, tous les mots, tous les synonymes, que mal et tout, là, puis pour qu'il soit inébranlable comme une colonne vertébrale debout, puis qu'il rouvre la bouche, puis que ça soit les vérités des mystères du royaume de Dieu. Pour être un gars comme ça, il faut que tu sois soutenu dans la prière. L'Église, les brebis qui étaient autour de lui, c'était leur ministère de combattre avec Paul, pour que Paul puisse avancer avec ce feu-là, ce zèle-là. Ce que j'ai déjà vu dans des églises, c'est pas pour critiquer, mais ça allait arriver, que les pasteurs, ils n'arrachent, puis ont de la misère à porter le message avec l'onction, puis ils ont même pas l'énergie pour prêcher, ils sont vides, ils n'arrachent. Puis là, tous les membres de l'Église le critiquent. Le pasteur n'arrache, puis tous les membres de l'Église le critiquent, puis il n'y a pas un qui prie pour lui. Comment est-ce que le pasteur va pouvoir être puissamment rempli de l'hardiesse et de la liberté si le monde ne prie pas, puis ça critique? C'est le combat de l'Église de combattre avec l'ouvrier. Il se prépare d'avance, il prie le Seigneur, Dieu lui donne des inspirations, puis là, la personne avance avec un message pensant qu'il s'est donné par le Saint-Esprit. Quand il s'est apporté à l'Église, ça l'édifie le corps, quand que Dieu l'a donné. Mais s'il est tout seul dans son combat, puis il est dans une multitude d'attaques, puis il est dépassé par les événements, puis il est découragé, puis là, il néglige la prière parce que ça va pas bien, puis là... Tout le monde peut vivre ça. Il n'y en a pas qui sont à l'épreuve de ces moments-là. Ils ont besoin d'être soutenus. Puis c'est qui peut faire une différence? C'est les simples brebis, les petites brebis fidèles qui écoutent la voix de l'Esprit-Saint. Puis que là, le Seigneur leur met à cœur de prier pour le pasteur. Puis là, le Seigneur le relève. Ça ne se voit pas à l'œil. Mais même qu'on arrive l'autre bord, par exemple, on va le voir. Toutes les gens qui ont prié pour les ouvriers... Puis on va voir qu'il était abattu, puis on va voir que la prière qui était donnée a relevé l'ouvrier. Aujourd'hui, ça se voit pas, puis on ne donnera pas de certificat de mérite pour ça. On donne pas de cadeau pour ça parce que vous avez prié. C'est Dieu qui va y faire les cadeaux, puis c'est juste après. Mais qu'on soit rendu l'autre bord, puis que là, on va voir tout ce qui s'est produit dans ce monde, puis comment est-ce que ceux qui étaient bien forts en avant puis qui prêchaient devant tout le monde étaient soutenus par une équipe de prière. Fait que tous les mérites de l'ensemble de cette œuvre reviennent à Dieu puis reviennent au travail de tous. Quand il dit, chaque fois que tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. Le prophète qui était au-devant du peuple pour prêcher les prophéties de Dieu, a besoin d'être restauré physiquement, puis moralement, puis se faire donner un verre d'eau, c'est quelqu'un qui l'appuie dans son ministère. Fait qu'il est restauré physiquement et moralement, puis ça lui donne encore plus de courage de savoir qu'il y a du monde avec lui pour être dans sa cause. Fait que Dieu dit, le résultat de ce prophète-là, ça va amener une bénédiction à celui qui donne le verre d'eau aussi. Il va avoir la récompense de prophète. Parce que tu fais partie de l'équipe de prophètes. Mais c'est la même chose dans l'église de Saint-Rémy. Toutes les bénédictions, que les fruits pendant les années qu'une église est fidèle, qu'elle est là, qu'elle travaille à édifier frères et sœurs, puis que les frères et sœurs, ils persévèrent à cause de l'encouragement de tous ceux qui travaillent et qui s'impliquent, qui prient, ça l'emmène des bénédictions qu'on ne les a pas encore vues, mais qu'on soit rendu l'autre bord, nous allons être récompensés pour nos travaux. Oui, il y avait une école de prophètes, puis les gens, ils suivaient, ils étaient en équipe, ils prenaient des temps de louange, puis de prophétie, puis ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut aider les frères et sœurs? Premièrement, on peut les aider par nos exhortations et nos encouragements. Il n'y a pas juste celui qui prêche en avant. Quand on se rencontre, là, ça commence là, on se donne la main, on se fait des sourires. L'accueil. Quand il y a eu des choses qu'on sent qu'il y a des petites tensions, des petites émotions, la réconciliation, c'est les bénédictions de Dieu, ça. C'est le contraire de ça, ça serait, on vient ici, là, on veut rien savoir des autres. Hein? L'indifférence. On veut rien savoir des autres, puis je m'en fous qu'il y ait de la peine, je m'en fous qu'il souffre, je m'en fous qu'il rentre dans l'église, on le regarde avec une face d'ébête. Ah non, tu vois, il a encore mis ses bottines, lui, là, matin. Là, on critique. Mais ça, c'est la chair qui pense de même. Mais ça, ça n'édifie pas le corps de Christ. Ça n'édifie pas. Faut trouver ce que je pourrais faire de mieux pour édifier l'autre. Je reviens avec le passage, il dit que Paul, dans Colossiens 1:28, nous a dit, « Lui, Paul, il travaillait, il exhortait, il instruisait tout homme afin de les présenter. » Il dit, « Il travaille avec sa force qui agit puissamment en lui. » Puis nous autres, on a tous de la force de Dieu dans nous. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as le Saint-Esprit. On peut tous être utilisés pour encourager les autres. On a tous quelque chose. Fait que quand vous allez me voir la semaine prochaine, venez me montrer ce que Dieu vous a donné. Paul, il comprenait ces choses, puis lui-même, il travaillait à rendre tout homme parfait en Christ. Puis il était affermi dans le Seigneur, puis il comprenait le combat, puis il travaillait avec la force que Dieu lui communiquait. Est-ce qu'on le sait, quelle est la force que Dieu nous a donnée? Puis, de toute façon, on a eu un bagage en commençant notre vie chrétienne, puis ça se multiplie. Il dit, celui qui était fidèle dans peu de choses, on y en confiera davantage. Ça veut dire que tu ne peux pas être 100% ayant la connaissance de tout ce que Dieu va t'amener, tu ne sais pas. Mais tu sais, tu peux savoir déjà une partie de ce qu'il t'a confié, puis commencer à le mettre au service des autres. Puis si tu es fidèle, Dieu va t'en donner encore plus. Puis tu vas en avoir encore plus de fruits dans ta vie. Puis si tu penses que ta vie ne change pas, pose-toi la question. Est-ce que tu es en train d'investir dans l'œuvre de ce que tu as reçu? Il faut se poser la question. La parole de Dieu, elle, est puissante à faire son œuvre. Mais c'est des fois, c'est nous autres qui ne transmet pas ce que la parole aura pu faire comme fruit. Ou qu'on laisse aller plus de notre dimension charnelle que notre dimension spirituelle. Puis là, on ouvre pas la bouche pour parler dans le nom de Dieu. La parole de Dieu, elle a une propriété puissante. Si je me mets encouragé là, avec un verset, là, la parole de Dieu, elle a une propriété puissante d'augmenter la foi, de délivrer, de changer la vie de la personne, puis de l'encourager, puis il donne une vision de quelque chose d'autre que ce que le diable est en train d'y mettre dans sa pensée. Il n'y a même pas une parole de Dieu qui va s'en retourner à Dieu sans avoir fait son effet. Ça, c'est écrit dans Isaïe 55:11. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit Dieu. » La parole qui sort de la bouche de Dieu, la Bible, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est de la puissance en papier. Elle est écrite en papier, là. Mais il ne faut pas qu'elle reste en papier. Faut qu'elle soit agissante, là. Faut que quelqu'un la lise, il l'entende, il rouvre la bouche, puis il la répète. Puis là, il va se passer des choses. La puissance de Dieu va commencer à agir en réponse, pas parce qu'on était Daniel Poulain qui a ouvert la bouche, parce que la parole de Dieu est puissante, elle est autorité, elle est vraie. Quand elle va sortir, elle ne sortira pas sans avoir fait son effet. On le croit-tu? Fait que, entre frères et sœurs, prenons des versets, pas les versets qui piquent les autres. Là. Prenons pas les versets qui condamnent puis qui font du mal. Prenons des versets qui encouragent les autres, puis vous allez être en train de travailler à bâtir le corps de Christ. Paul utilisait la parole de Dieu envers tout homme. Il dit, nous instruisons tout homme. Converti ou non. Il n'y a pas juste les chrétiens qui aiment ça entendre des versets. Il y a même des gens non chrétiens qui aiment entendre des versets. Si une personne vous dit, parle-moi-en pas, là, tu secoues à tes pieds, tu respectes sa décision. Mais il y en a plein des inconvertis qui aiment entendre des versets. Puis je les écoute des fois, là, même ceux qui parlent à la TV, ils sortent un verset, ils sortent une parabole, ils sortent un exemple de la Bible de temps en temps. Tu vois qu'ils ne sont pas 100% en désaccord avec tout ce qui est écrit. On n'a pas à se gêner de ça. Paul y exhortait tout homme pour les amener à Christ puis les rendre parfaits. Comment je peux aider aussi les autres qui sont autour de moi, à part avec mes paroles d'encouragement qui viennent de versets de la Bible? Je peux les aider par la prière. J'en ai parlé un peu tantôt. Nous combattons avec les autres pour supporter les ministères. Ça, j'en ai parlé dans Romains 15, 30. Il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Paul demandait des prières. Il voulait que les gens combattent avec lui. Fait que quand vous êtes en train de prier pour ceux qui travaillent au front, ça, c'est l'évangélisation, l'enseignement. Que ce soit à la grande assemblée ou que ce soit dans une cellule en semaine. Nous sommes l'Église. Nous sommes le rassemblement choisi de Dieu. Nous devons combattre pour ceux qui combattent. Celui qui amène le message, il doit avoir des prières. Il a besoin de renouveler ses forces. Il a besoin de l'inspiration. J'en parle parce que je pense. Des fois, on pense que celui qui travaille en avant, c'est celui qui est en avant, puis qu'il inclut qui travaille dans l'Église. C'est faux, ça. C'est une fausse mentalité. Il est là, peut-être, en Église, il est vu devant tout le monde. Mais tous les gens qui prient pour lui participent à son ministère. Les fruits de son ministère, vous allez avoir les mêmes récompenses si vous combattez avec lui. Il faut apprendre, là, c'est pas à cause que mon corps a une tête qu'il y a juste ma tête qui est importante. J'ai aussi un corps qui soutient ma tête. Et mes deux pieds, mes deux jambes, mes deux bras sont aussi importantes à mon corps qui est là devant vous. Puis là, souvent, on regarde le corps, on regarde la tête. Quel honneur que la main, elle a eu. As-tu fait à regarder ma main? Non, mais elle était... Là, parce que je parle d'elle, vous la regardez. C'est elle, depuis tout à l'heure, qui se sert à bouger ma feuille. Puis il y a mes yeux qui regardent ma feuille. Bien, ma main est aussi importante que ma tête qui regarde ma feuille pour vous parler. Puis il faut comprendre que dans le corps qui est l'Église, les membres qui sont là sont tous aussi importants que celui qui est en avant. Puis vous participez tous à son œuvre. Juste le fait d'être là, vous êtes encourageant pour celui qui prêche en avant. C'est encourageant pour un prédicateur de voir que les brebis sont là le dimanche. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. Ça l'encourage. Mais le contraire se fait aussi, ça l'encourage pas, ça même des fois, ça peut décourager de ne pas voir les frères et sœurs qui sont là le dimanche, puis que là, l'ouvrier est en avant tout seul, puis il essaie de faire un effort, prier, puis être là à préparer ses affaires, puis arriver le dimanche, puis il n'y a pas plus de personnes, ça décourage. L'équipe n'est pas là. Clairement, là, il y a, depuis que c'est ouvert, là, il y a eu des moments qui étaient un deux ici. Il est arrivé à certaines réunions, il était tout seul. C'est quelque chose. Ça, il a besoin d'encouragement, ce gars-là. La même chose que moi, je n'ai besoin, puis la même chose que chacun de vous autres n'avait besoin. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme, c'est le corps. Puis il est béni quand tout le corps est là, puis Dieu aussi est béni quand tout le corps est là, puis tout le fait d'être là, puis qu'un nouveau vienne, il vous voit là, c'est encourageant aussi pour le nouveau qui vient, puis après ça, la parole que vous allez lui donner, la prière que vous allez prier, c'est là que ça se passe. Nous combattons avec les autres pour supporter aussi chaque individu, pas juste les ministères, là. Des fois, il y en a un qui lève la main, j'ai un sujet de prière. Bien, on commence à prier. Même si vous avez prié une fois ou prié 10 fois pour le sujet, c'est qu'il y en a plusieurs qui s'unissent pour demander du combat avec les autres. Dans Colossiens 4:12, ça nous dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » C'est-tu fort, ça? C'est un combattant. C'est un combattant, un compagnon de Paul, qui priait pour l'église de Colosse. Il dit, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Vous en cherchez des sujets de prière, pourquoi prier? Afin que tout le monde devienne parfait et pleinement persuadé que c'est la vérité et la parole de Dieu. C'est ça qui est le but. Il faut qu'on devienne tous à ce que Christ soit formé en nous, qu'on soit des hommes à la stature de Christ. Mais en tant qu'ouvrier, commencez à combattre afin que tout le monde devienne parfait et pleinement persuadé dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça, c'est ouch. Faut que toutes les brebis de l'Église ici, puis pas juste ici, dans toutes les églises autour, puis les églises du monde entier, faut tous qu'ils deviennent parfaits, pleinement persuadé et pleinement obéissant à la parole de Dieu. C'est-tu fort? Je pense qu'il y en a de la prière à faire. Vous, quand vous commencez à ouvrir la bouche puis commencez à prier pour ces gens-là, vous êtes en train de combattre. Vous êtes un soldat de Jésus-Christ en train de combattre. Paul, il comprenait la valeur puis l'efficacité de la prière. Puis il savait que toute l'efficacité de son ministère était due aux prières monter vers Dieu. Que ce soit ses prières ou celles des frères et sœurs dans la foi. Toutes les prières, ça prend toutes les prières. Vous voulez qu'il se passe de quoi à Saint-Rémy? Ça prend de la prière. Priez pour Saint-Rémy. Priez qu'il y en ait qui viennent, qui soient sauvés. Priez que ceux qui viennent demeurent dans la foi, puis qu'ils persévèrent jusqu'à Christ, puis soient pleinement obéissants. Éphésiens 1:16, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Là, Paul il priait pour Éphésiens, puis il dit, il ne cesse de rendre grâce, puis faire mention d'Éphèse dans ses prières. Comme il présentait Colosse, comme qu'il toutes les églises, il présentait à Dieu, puis il priait pour chacun. Puis un autre passage qu'il dit, Paul, il dit, Je n'ai cessé d'exhorter chacun de vous avec larmes. Il était attentionné, puis il avait à cœur chacune des brebis, puis il en pleurait. Hey, ça, c'est un gars qui a à cœur les petites brebis du Seigneur. Une autre manière qu'on peut aider, ça va être la dernière, par notre exemple. Parce que des fois, il y en a qui disent, « Ouais, quand tu nuis pas, t'aides. » Mais l'idée, c'est de ne pas nuire, justement. Celui qui travaille avec moi, ou celui qui ne travaille pas avec moi, disperse, c'est ça que Jésus dit. Le point est qu'il faut apprendre à donner l'exemple en tant que chrétien, qu'on soit des chrétiens matures. Tu veux fortifier frères et sœurs? Déjà, en étant de bon exemple, tu es en train d'y donner l'exemple. Si on est un mauvais exemple, peut-être que l'autre va nous regarder que ça il ne sera pas touché, puis il ne sera pas ébranlé, mais une petite brebis, lui, qui est faible, lui, ça peut l'ébranler. Est-ce que chaque membre de l'Église est capable de relever le défi? C'est un défi, ça, là. Est-ce que nous voulons se consacrer à l'œuvre de Dieu, puis de faire tous nos efforts pour faire avancer l'œuvre de Dieu, combattre pour l'œuvre de Dieu ici à Saint-Rémy, puis dans les cellules dans la semaine? C'est l'œuvre de Dieu à Beauharnois, à Châteauguay, à Saint-Rémy, puis partout où il y a des réunions, chaque fois qu'il y a une petite réunion, c'est important d'être là. On appuie l'œuvre de Dieu. Notre exemple donne l'exemple aux autres. Si j'y vais, puis je m'implique, je vais bénir ceux qui sont là, puis je donne l'exemple aux autres d'y aller, puis de s'impliquer. Si je ne vais pas, puis je ne suis pas intéressé, puis ça ne me tente pas, puis je vais du reculon, puis je critique tout le long, puis par mon exemple, je vais risquer de plus nuire que d'aider. Est-ce qu'on est capable de leur relever le défi avec Dieu et avec les autres pour arriver à combattre le bon combat? Ce n'est pas une job bien de l'ouvrier qui est en avant. Dans Éphésiens 4, 16, regardez bien de comment est-ce que ça dépend le corps. Là. J'ai pris la version de la Bible de l'épée, qui est encore plus détaillée dans ce que je vais apporter. Ça dit, de qui tout le corps, ça c'est l'Église, bien coordonné et étroitement uni, par l'assistance de toutes les jointures, attire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. La force de l'Église va être une multiplication, une addition qui devient une multiplication de toute la force de chacun de ceux qui vont savoir investir pour la fortifier. L'Église tire son accroissement de la force donnée à chacun d'eux qui vont s'aligner. Parce que c'est bien dit, là, n'oubliez pas. Tout le corps est bien coordonné et étroitement uni. Ça veut dire on a tous reçu des forces du Seigneur. Mais la force de l'Église va augmenter en autant que j'aligne étroitement ma force avec l'Église, puis que chacun de vous, vous alignez votre force, puis vos efforts, puis votre prière, puis votre dévouement pour faire avancer cette Église-là. L'Église ne sera pas plus forte que la force que vous allez avoir injectée dans cette Église-là. Fait que si c'est une Église divisée, ça veut dire que l'ensemble du monde a injecté la force de la division. C'est aussi clair que ça. Si c'est une Église qui marche dans la charité, la charité, là, c'est l'amour de Dieu produit par le Saint-Esprit. Ça dit, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Si l'Église marche dans la charité, c'est parce que chaque membre a mis toute sa force pour arriver à ce que cette Église-là marche dans charité. Il va y avoir un nouveau qui va rentrer ici. Il va être touché par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu, par la vérité de la vie des membres qui sont là en train de vivre des vrais. Ils vont dire « c'est des vrais ». C'est des vrais. C'est des vrais qui sont là. Tu vas aller dans une église, tu n'as même pas venu te dire bonjour, tout le monde a une face de bœuf, puis il y a de la chicane d'un bord, puis de l'autre, puis de la division. Ils ne vivent pas en vrai. Puis l'église, le résultat de l'église va être en fonction de chaque membre qui communique sa force pour essayer de la bâtir. Par nos efforts dans le lieu de recueil et de ressourcement, parce que l'Église, c'est notre lieu de recueil et de ressourcement. Par nos efforts, par notre présence à l'Église, par notre implication à l'Église, par notre support à l'Église, par pardonner, donner des bonnes paroles, de prier, par notre soutien financier à l'Église, par notre aide aux diverses activités de l'Église, par notre sanctification pour donner un bon exemple. Comprenons-nous quel est le combat, puis engageons-nous. Prions. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te remercie pour ton message. Seigneur, que cette vision claire de combattant pour la vérité, pour ton œuvre, pour l'Église, que ça puisse être gravé dans nos cœurs, puis que ça puisse produire en nous un engagement à vouloir s'investir pour faire avancer ton œuvre. Je te prie pour chacune des brebis, que tous puissent découvrir les dons, les talents, la force que tu as communiquée, pour que tous mettent cette force à ton service et que cette Église puisse avancer avec ta charité, ton amour, qu'on puisse grandir dans cet amour et la vivre à tous les jours. Bénis cette Église, rajoute des brebis, Seigneur, fortifie les celles qui sont là, on remet tout entre tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.